de faire les derniers les retardataires, pas frileux, parce que vraiment je vous remercie tous d'être présents. Petite juste introduction, il y aura deux introductions. Une première introduction sur la Cité des Savoirs du XXIe siècle qui vous accueille ce soir. Ce projet né de la société civile a commencé en 2005 au moment où François Pinault a décidé qu'il renonçait à son propre projet sur l'île Seguin. Et il a rassemblé très vite des gens de gauche, de droite, de tout parti politique, de tout type d'associations et des gens qui ne sont pas politisés, qui sont juste intéressés par la culture et l'éducation. Et donc on a laissé passer un petit peu de temps et aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire que le projet Cité des Savoirs du XXIe siècle existe toujours, bien qu'il y ait eu des changements municipaux de l'équipe municipale, on continue ce travail. Je voulais aussi vous remercier et remercier nos deux intervenants de ce soir. Donc ce soir, on a un beau sujet en présence de deux polytechniciens, Albert Jacquard et Jean-Pierre Levade. Albert Jacquard, école polytechnique, devenu généticien un petit peu plus tard, était expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé, expert en génétique. Et puis, une production de réflexions et de livres importantes, entre autres sur l'humanisme, et puis jusqu'au jour où vous avez écrit un livre qui parlait qui disait non à l'économie triomphante. Et aujourd'hui, M. Jacquard est en train de terminer un ouvrage qui s'appellera « Le compte à rebours est-il commencé ?» Et on verra que sûrement on aura l'occasion de parler d'économie dans cet ouvrage, et en tout cas ce soir. Jean-Pierre Levade, polytechnicien aussi, a été directeur adjoint de Pierre Mauroy de 80 à 83, a écrit de nombreux ouvrages, était professeur à l'école polytechnique, professeur d'économie, est aujourd'hui vice-président auprès de François Bayrou, du mouvement démocrate, et a écrit son dernier ouvrage qui est sorti, je crois, en septembre, Sarkozy, l'erreur historique, qui est un ouvrage... voilà, plus conjoncturel, on va dire.
Ce soir, on va essayer... très sérieux. C'est un ouvrage très sérieux.
Très sérieux. On est plus ce soir, effectivement, sur des thématiques plus larges, mais on essaiera quand même d'arriver en fin de conférence sur les sujets aussi conjoncturels. Je vais changer de micro. Alors c'est vrai que le thème qu'on va aborder ce soir est porté par une actualité florissante. Et ce sont effectivement des thèmes fondamentaux, l'économie, l'humanisme. L'opposition entre ces mots est d'ailleurs assez intéressante. Est-ce qu'il y a opposition? C'est une vraie question, on en parlera. On va essayer d'éviter l'autre question, c'est l'argent fait-il le bonheur? Pour essayer plutôt de juxtaposer des mots, l'humanisme est né au XIXe siècle, en rapport avec plutôt les sciences. Au XXe, on a vécu l'humanisme politique, et on pourrait se demander si le XXIe siècle ne sera pas le temps de l'humanisme économique. L'économie a pris le dessus. On a bien vu, par exemple, que le 11 septembre, c'était effectivement des intérêts économiques qui étaient visés. Et donc, effectivement, opposer économie et humanisme va nous amener à poser un certain nombre de questions intéressantes, aussi bien sur les marchés et son rapport et le rapport des marchés à la démocratie, le contrôle d'une économie libérale par le politique, la question aussi de l'homme au cœur d'un projet de société. Est-ce que ça ne remet pas en cause aussi le contrat social? Et puis, on va finalement aborder les choses en trois parties, si vous le voulez bien. Première partie, on va essayer de définir un petit peu les problématiques, économie, humanisme, et le rapport entre ces deux notions. On pourra avoir quelques jeux de questions en fin de première partie. Une deuxième partie, tout aussi courte. À chaque fois, on va essayer d'aborder ça une demi-heure, une demi-heure. L'économie et son rapport à la démocratie. En gros, ces questions qu'on se pose tous en ce moment sur qui doit reprendre le pouvoir entre le politique et l'économique et le jeu entre ces deux notions. Et puis, on terminera sur une actualité un petit peu plus conjoncturelle, essayer de comprendre avec nos deux éminents intervenants comment ils analysent une crise économique, financière, ou même comment ils analysent un plan de relance récent. Alors, entreprise et économie, l'influence sur notre quotidien est évidente. Ont-elles, les entreprises, toujours le souci d'être des bonnes citoyennes? L'entreprise, vision un petit peu simpliste, l'entreprise, a priori, est faite pour faire de l'argent. Et pourtant, elle intervient dans une société où nous voulons tous de plus en plus de morale. C'était Dominique Bourg qui présenter un petit peu cette problématique. Et je trouvais que c'était un bon point de départ, Jean-Pierre Levade, pour essayer de voir avec vous la façon dont on pourrait parler peut-être, vous, de votre côté d'humanisme, et peut-être s'amuser aussi à faire parler d'économie et d'avoir cet aller-retour entre vous deux. Quel crédit on peut apporter à ces entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à afficher un visage humain, en tout cas en termes de marketing, et puis toutes les questions sur qu'est-ce qu'on a comme indicateur de bien-être quand on est un économiste. Est-ce que le PIB est un indicateur de bien-être? Et toutes ces notions-là, est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer sur ce rapport entre économie et humanisme?
Je vais peut-être vous choquer, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y ait de rapport naturel. Qu'est-ce que c'est que l'économie ? C'est une des activités humaines importantes. Je pense que les besoins de l'humanité sont les mêmes depuis des temps ancestraux. Un désir de pérennité de l'espèce, de reproduction. Il y a un désir de protection, de défense, au premier besoin correspond la fonction amoureuse, au deuxième besoin correspond la fonction militaire, il y a un troisième besoin qui est celui d'améliorer les conditions d'existence dans une nature qui, au départ, est une nature hostile, difficile. C'est à ça que correspond l'économie, la lutte contre la rareté. Et puis, il y a un désir de transcendance dont je ne parlerai pas. Je ne crois pas que l'homme soit naturellement bon. Je ne crois pas que l'économie, comme toute autre activité humaine, soit naturellement morale. Je pense que c'est une partie importante du vivre ensemble, mais que pour arriver à ce qu'elle se développe, si je puis dire, dans un esprit humaniste, c'est-à-dire avec un respect des individus, d'autrui, de l'ensemble de la collectivité, il faut des règles. Il faut des règles qui sont des règles extérieures à l'économie, qui sont des règles qui viennent nécessairement du politique. En d'autres termes, je ne crois pas à la capacité d'autorégulation d'une structure économique, quelle qu'elle soit, sauf si elle y trouve son intérêt. Bien entendu, vous me direz, c'est très commode comme position de critiquer de ce fait le comportement spontané des entreprises. Puisque une de mes conclusions intermédiaires, c'est que très souvent, les entreprises qui s'affirment entreprises citoyennes, c'est soit qu'elles y ont un intérêt, au sens le plus monétaire du terme, soit que des règles les y poussent, des règles, des réglementations, des lois, des usages. Je ne crois pas du tout à leur vertu spontanée. Mais, comme le disait un auteur récent, Kant Sponville, je crois, le capitalisme n'est ni moral ni immoral, il est. Mais pour peut-être augmenter votre degré d'interrogation, je crois que la manière dont je décris l'entreprise comme acteur économique, je pourrais décrire chacun d'entre nous également comme acteur économique. Donc ce que je viens de dire s'applique aussi au comportement individuel des uns ou des autres. Je vais prendre des exemples qui sont aussi des exemples d'actualité. On est en face aujourd'hui d'un réchauffement climatique. Il y a un certain nombre de nos comportements en termes individuels, mais je pourrais revenir au niveau de l'entreprise et dire la même chose de l'entreprise. Il y a un certain nombre de comportements individuels qui sont profondément contraires aux intérêts de l'espèce. Dans nos comportements individuels, nous fabriquons ce qu'on appelle des effets externes. Dans le langage, dans le jargon des économistes, nous fabriquons des effets externes qui sont adverses au niveau de l'ensemble de la collectivité. Par exemple, et je suis comme chacun de vous, j'en fabrique de manière permanente. Quand je prends ma voiture pour me déplacer d'un kilomètre en ville, je fabrique inutilement du CO2 et du réchauffement climatique. Pourquoi je le fais ? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas humaniste ou est-ce que c'est tout simplement parce que, comme la plupart des êtres, des individus, des agents économiques, et contrairement à ce que disait Rousseau, l'un des moteurs principaux du comportement humain, c'est quand même fondamentalement un égoïsme particulier, familial, de collectivité, d'entreprise, mais qui ne s'étend pas à l'ensemble de l'humanité. D'où la nécessité de lois, de règles, de réglementations qui ont pour effet, d'abord, au niveau de l'entreprise, au niveau des individus, au niveau de tous les agents économiques, de lutter contre les effets externes négatifs. Slogan classique, les pollueurs seront les payeurs. Qui pollue, paie. Les pollueurs, en général, ne payent pas spontanément. En tout cas, j'ai pas vu ça arriver très fréquemment. Et donc, pour définir le vivre ensemble, qui est une des conditions sine qua non de l'humanisme, il faut une loi externe au système économique. Il faut donc une loi nécessairement définie par le politique au sens large du terme. Je terminerai peut-être là-dessus, cette partie encore un peu abstraite. Je ne crois pas du tout aux capacités d'autorégulation des différents systèmes économiques.
Justement, pour être un petit peu moins abstrait, l'entreprise, on a l'impression que l'entreprise a toujours une vision un petit peu réductrice de l'homme. En gros, il serait soit salarié, soit consommateur. Est-ce que vous avez l'impression, dans votre expérience, que les entreprises, sur les 20 dernières années, ont anticipé ce désir ce désir d'humanisme et voient un petit peu les choses autrement. Pour revenir, c'était la question aussi, peuvent-elles être de bonnes citoyennes, ces entreprises ?
Une fois de plus, vous allez peut-être me trouver trop noir, trop pessimiste, trop... Je ne crois pas spontanément au comportement de l'entreprise citoyenne. Comme je ne crois pas, de manière plus générale, au comportement spontanément altruiste et philanthropique de chacun d'entre nous. Je crois que le chef d'entreprise, je l'ai été pendant longtemps, le chef d'entreprise, effectivement, il a une machine de production à organiser, à faire fonctionner. Dans cette machine de production, il a des producteurs, il a des salariés qui sont des producteurs. Il s'adresse à des consommateurs, il y a des autorités politiques, il y a des collectivités locales, il y a des autorités fiscales. L'intérêt de l'entreprise, mais c'est son intérêt, c'est de dialoguer au mieux avec ces différentes parties prenantes de façon à dans sa machine productrice, obtenir le maximum de productivité. Et du côté des consommateurs, le maximum de succès. Et si je reviens au mouvement consumériste, pourquoi l'entreprise va-t-elle commencer à corriger éventuellement un certain nombre de ses comportements ? Précisément parce que si les mouvements consuméristes ont du succès dans leur critique du comportement de telle ou telle entreprise, ça devient un problème d'intérêt pour l'entreprise elle-même. Donc il vaut mieux être bien vu par les consommateurs, il vaut mieux être bien vu par les mouvements consuméristes, tout simplement pour pouvoir vendre plus facilement et développer plus facilement ses activités. Je ne vois pas au nom de quel miracle l'entreprise, en tant que collectivité organisée, avec un objectif très précis, je ne vois pas au nom de quel miracle, elle prendrait en compte à nouveau spontanément des effets externes, positifs ou négatifs, qu'elle fabrique du fait de son activité, mais dont elle ne paye pas les conséquences ou dont elle ne bénéficie pas des conséquences quand il s'agit d'effets externes positifs. Le comportement citoyen, de mon point de vue, ça relève essentiellement soit de l'intérêt, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, soit des relations publiques et de la communication, ce qui revient au même. Mais à nouveau, pourquoi, au nom de quoi et par quelle espèce de miracle ou de grâce l'entreprise pourrait-elle, devrait-elle, serait-elle capable d'intégrer des préoccupations qui lui sont extérieures? À nouveau, je vais prendre un exemple volontairement choquant pour bien me faire comprendre sur ce que j'appelle les effets externes et sur l'incapacité de l'entreprise à s'autoréguler par rapport à ça. Les fabricants de tabac ont nié pendant des décennies les effets nocifs de leur production. Les producteurs d'amiante ont tenu exactement le même discours pendant également des décennies. Et quand je dis les entreprises, ce n'est pas uniquement les chefs d'entreprise concernés, c'est l'ensemble du corps social concerné qui disait « mais non, pas du tout, vous exagérez ». Je n'ai jamais entendu, en tout cas jusqu'à des dates relativement récentes, les syndicats des industries du tabac dire nos patrons ont complètement tort, ou les syndicats des industries de l'amiante dire nos patrons ont complètement tort. Donc je pense que, une fois de plus, ne croyez pas que ce soit un regard noir sur l'humanité, je pense que nous sommes tous comme ça, c'est la même chose dans notre comportement individuel. Moi, je n'ai pas d'animal domestique. Mais quand je me promène dans les rues de telle ou telle ville, Boulogne, Paris, Neuilly, etc., je me dis vraiment, les propriétaires de chiens, ils ne se préoccupent pas beaucoup des effets externes sur le reste de l'humanité du comportement de leur animal. Donc ce qui est vrai à ce niveau-là, pourquoi voulez-vous qu'il en soit différemment dans une construction dont la nature, l'objet est de fabriquer des biens et de les vendre.
Et encore une question à l'économiste, avec une vision un petit peu plus, non pas de l'entrepreneur, mais une vision donc du coup plus macro. L'exemple des éjections canines et ce que vous venez de dire à l'instant, donc on a bien compris que vous étiez vraiment pas du tout sur la logique d'Adam Smith et de la main invisible. Est-ce que vous pouvez nous dire juste deux mots sur le rapport de la finance à l'entreprise dans ce cadre-là, dans le cadre de la question qu'on est en train de se poser là?
Même chose, hein, la réponse est assez simple, c'est-à-dire je ne crois pas du tout, contrairement à ce que affirmé Nicolas Sarkozy, donc c'est la première façon d'accrocher mon bouquin. Hein. Moi aussi, hein, j'ai des objectifs marchands, de vente, etc. Donc je ne crois pas du tout à la séparation entre un capitalisme financier qui serait impur et un capitalisme dit d'économie réelle qui serait un capitalisme entrepreneurial qui ferait que des bonnes choses. D'ailleurs, je viens d'expliquer pourquoi, hein, l'exemple de l'amiante, l'exemple du tabac sont de ce point de vue-là déjà des illustrations suffisantes. Mais en allant plus loin, je crois que la fonction financière est une fonction indispensable du développement économique. Je crois que si on veut avoir un appareil productif puissant, efficace, qui fabrique de la prospérité, je rappelle que nous sommes dans la catégorie lutte contre la rareté, hein, c'est ça le... Donc il faut qu'il y ait une fonction financière très développée, parce que la fonction financière permet d'affecter l'épargne de façon fine aux différentes catégories d'investissement. Donc un capitalisme développé, une économie de marché développée ne peut pas se passer d'une économie financière également très développée et très sophistiquée. Mais, immédiatement pour équilibrer cette première déclaration, je vais en faire une seconde, qui est d'ailleurs assez illustrée par les événements actuels. Et comme on est entre polytechniciens, je vais lui donner la forme d'un théorème pour vous montrer qu'il y en a au moins un des deux qui a l'esprit de géométrie. C'est que je pense que tout système financier, et qui est une illustration de tout ce que je viens de dire, dans le cas particulier de l'économie financière, tout système financier non régulé fait faillite. Donc on ne peut pas se passer de système financier, et j'affirme que tout système financier non régulé fait faillite parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, à la fois individuelle et collective, dès qu'on met de l'argent sur la table, ce qui est la fonction du financier, de mettre de l'argent sur la table ou d'évoquer l'argent, ou de faire rêver sur l'argent. Donc dès qu'on met de l'argent sur la table, dès qu'on est financier, on attire immédiatement deux réflexes profonds de chacun de nous, qui sont d'une part la cupidité, si j'étais moins agressif, je dirais l'appât du gain, mais comme je veux être parfaitement clair, je dis la cupidité, et de l'autre côté, la crédulité. Les deux allant ensemble, d'ailleurs. Et donc, quand vous ajoutez cupidité et crédulité, vous avez, avec une démonstration dont je vous fais grâce, mais l'histoire est de mon côté, le théorème suivant lequel tout système financier non régulé envahi par la crédulité et la cupidité, fait faillite.
Alors, Jean-Pierre Levade et Albert Jacquard, je vais venir me tourner vers vous. Jean, dans un livre qui s'intitulait « Le capitalisme total », dans lequel vous critiquiez les dérives du capitalisme, vous disiez aussi « Aucun autre système n'a pu produire autant de croissance économique au bénéfice de l'humanité tout entière ». Et c'est vrai, Albert Jacquard, qu'on parle souvent du rapport entre l'entreprise et l'éthique. On voit bien, effectivement, et vous l'avez rappelé, que la responsabilité collective de l'entreprise est souvent mise à mal par rapport à ses propres intérêts. Elle est vouée, elle, au profit. Albert Jacquard, en 2050, on devrait être à peu près 9 milliards d'humains. Les entreprises aujourd'hui, avec la mondialisation, deviennent de plus en plus informelles. Elles sont, on ne sait plus très bien où elles sont. Les responsables prennent les cadres responsables prennent des décisions à distance. On pourrait même se demander s'ils sont encore des personnes morales. On a parlé de croissance, on a parlé de l'appât du gain. Est-ce que ces mots, Albert Jacquard, est-ce que ces mots parlent au monde?
En prenant le mot croissance. C'est un mot qui signifie une augmentation, mais une augmentation de quoi? Le plus souvent, c'est du produit national brut, etc., c'est-à-dire de choses que l'on mesure et dont on est content de voir qu'elles grandissent. Et on pense que ça va durer longtemps. Le plus étonnant, c'est qu'on puisse y croire. Là, la crédulité des collectives, la croyance en la croissance est quelque chose qui paraît étrange, étant donné que nous sommes définitivement affecté à une petite planète qu'on ne va pas pouvoir multiplier. Et par conséquent, toute croissance, qui est au fond une exponentielle, aboutit à une impossibilité. Donc le problème n'est pas de savoir combien de temps ça peut, jusqu'où on peut aller, mais savoir comment on va essayer de freiner un petit peu cette course folle à la croissance. Car effectivement, 3% ou 2% par an, 3%, ça représente le doublement en, je crois, de l'ordre de 25 ou 30 ans, et par conséquent, ça ne peut pas durer. Je n'arrive pas à comprendre qu'on ait pu donner comme slogan à une activité la croissance, alors qu'on sait que c'est obligatoirement quelque chose de très provisoire. Et puis surtout, nous sommes sur une terre qui est petite. Et ça, nous nous en sommes rendus compte il y a très peu de temps. La terre était immense, la terre était pratiquement infinie. Et alors là, tout allait bien. Mais à partir du moment où on commence à toucher les bords, ça ne convient plus. Et peut-être ce que nous vivons actuellement, c'est la conséquence du fait que tout d'un coup, l'humanité est en train de toucher les limites. Il y a des choses qu'on ne peut plus augmenter parce que la Terre est finie. Cette finitude de la Terre me semble être le terme essentiel de ce qui nous arrive actuellement. Par conséquent, nous ne nous reconnaissons plus, tout simplement parce que ce qui était vrai autrefois ne l'est plus maintenant. Nous étions dans des positions telles que la définition même de l'être humain a dû changer. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Il faut tout de même se rappeler cela. Bien sûr, c'est un objet. C'est fait avec des protons, des neutrons, comme tout le reste. Bien sûr, c'est un animal. Bien sûr, etc. Qu'est-ce que nous avons de particulier ? Ce que l'on peut tout de même constater, c'est que nous avons un cerveau hypertrophié qui nous a permis d'avoir une activité intellectuelle que, apparemment, n'ont pas les autres animaux, même les primates. Et surtout, et cela on ne le dit pas assez, surtout, nous avons utilisé cette agilité intellectuelle des hommes, d'abord pour nous rencontrer et nous donner une agilité intellectuelle plus grande encore par l'intelligence collective. Si je suis intelligent, c'est parce que j'ai appris l'intelligence grâce aux autres. Et on s'aperçoit que la véritable définition des êtres humains, c'est leur capacité à être plus qu'eux-mêmes, tout simplement en étant capable de rencontrer l'autre. Ce qui fait que chaque être humain devient lui-même, c'est la façon dont il rencontre les autres. Je crois qu'il faut partir en permanence de cette évidence. Cette évidence que ce que je suis, ce ne sont pas ce que m'a donné la nature, avec quelques gènes, très peu nombreux d'ailleurs, de l'ordre de 40 000. Ce n'est pas ce que m'a apporté mon environnement matériel, c'est essentiellement ce que j'ai glané dans mes rencontres avec les autres. Ce qui compte quand on parle d'entreprise, quand on parle de collectivité, ce qui compte, c'est la capacité dans une collectivité à faire que les rencontres soient fécondes. Et ce n'est pas si facile. C'est tellement difficile même que ça doit s'enseigner. Et s'enseigner où ? À l'école. Et me voilà devant une position qui, je crois, est la plus révolutionnaire qui soit, demander aux enfants non plus d'être les meilleurs, non plus d'être ceux qui dominent et qui sont des gagnants par rapport à des perdants, mais de demander aux enfants d'être ceux qui sont capables de rencontrer les autres. Et cela, ça change tout. Ça change tout parce qu'il ne s'agit plus de palmarès, il ne s'agit plus de compétition, il s'agit de coopération. Et il faut remplacer la compétition par l'émulation. La compétition, qui naturellement est mise en valeur dans les entreprises, la compétition, c'est courir avec l'autre et éventuellement lui faire un coup de pied, un croque en jambe pour éviter qu'il soit premier. Tandis que l'émulation, c'est constater que l'autre est meilleur que moi et par conséquent lui demander de m'aider à être meilleur que moi et pas que lui. Et voilà une évidence au niveau de l'évolution de l'espèce humaine. Ce qui se développe le plus, et malheureusement, on a un peu quitté cet état d'esprit, ce qu'on doit faire grandir le plus, c'est la capacité à rencontrer. C'est ce qui se passait tout au long de l'histoire humaine, jusqu'à il y a peu de siècles, finalement, une vingtaine de siècles, où on s'est mis à, surtout depuis deux siècles d'ailleurs, à accentuer le besoin d'être, comme on l'a dit tout à l'heure, égoïste, d'être celui qui ne pense qu'à lui. Alors que dans la vie humaine d'il y a 20 000 ans, ce qui comptait, ce n'était pas d'être le meilleur, c'était de participer à une collectivité dans laquelle on pouvait s'intégrer. On a perdu cette vision-là. Puisqu'il est question un peu de nature humaine, la nature humaine, je suis bien d'accord avec M. Perlevade, la nature humaine, elle n'est pas de spontanément faire le bien, mais non plus faire le mal. Au fond, moi je dirais volontiers en généticien qu'il n'y a pas de nature humaine. La nature humaine, c'est d'avoir deux yeux, etc. Mais ça n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est ce que nous devenons. L'enfant qui naît, il n'a aucune caractéristique encore, très peu. Et puis peu à peu, il va en acquérir en rencontrant les autres. Et c'est cette rencontre qui doit être riche. Et par conséquent, le critère d'une société, ce n'est pas qu'elle soit capable de passer de 1% par an à 2% de croissance, ce qui ne peut pas durer. L'important, le vrai critère, c'est dans cette société, est-ce qu'on arrive vraiment à provoquer l'apparition d'un plus que moi, d'un plus que l'autre. J'ai besoin de plus. C'est à l'origine des religions, c'est à l'origine des philosophies. J'ai besoin d'être un peu plus que la nature ne m'a donné et surtout que les autres ne m'ont donné. Et par conséquent, je vais peu à peu devenir celui qui existe par les liens qu'ils tissent. À partir de ce moment-là, c'est toute l'organisation sociale qui est en cause. Ça va beaucoup plus loin que le phénomène financier ou les phénomènes économiques. La finance, c'est quand il s'agit de monnaie, d'argent. L'économie, c'est quand il s'agit d'échange et de production. Eh bien, quand il s'agit d'échange de production, est-ce qu'il est tellement important de viser la quantité, alors que bien souvent, ce qui compte, c'est la qualité et c'est surtout la possibilité de l'échange qui sera gratuit. Ce dont j'ai besoin, c'est d'être entendu quand je parle. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'on me regarde, et de préférence avec une certaine gentillesse. J'en ai besoin. J'ai besoin aussi de pain, de vin, etc., de chaleur. Mais ce n'est pas forcément primordial. Il m'est arrivé une petite mésaventure. J'avais été invité à faire dans une grande entreprise d'automobile, donc il y a peu de choix, un exposé devant les cadres supérieurs de cette entreprise, une centaine. Et à un certain moment, je leur ai dit, mais ce matin, vous êtes levé tôt, il faisait froid, vous vous êtes déplacé, pourquoi faire ? Pour travailler ici dans des laboratoires ou dans des ateliers ? Mais qu'est-ce que vous espériez ? Vous espériez construire une voiture de plus, inventer un nouveau système de freinage ? Ou est-ce que vous aviez envie de rencontrer des copains ? Et tous m'ont dit, on avait envie de rencontrer des copains. C'est ça qui nous enrichit. Une journée n'est pas trop pauvre si cette journée a été une journée de rencontre. Je leur ai posé la question, mais alors qui s'occupe ici des voitures ? Bon, autrement dit, ce qui compte chez Renault ou chez Peugeot ou chez Citroën, ce qui compte, ce n'est pas l'efficacité que l'on aura du point de vue de l'augmentation du bénéfice de l'entreprise, c'est beaucoup plus le besoin qu'aura eu chacun de rencontrer des autres. Finalement, fabriquer des voitures Renault, c'est un prétexte pour que des gens viennent se rencontrer. Je vais un petit peu plus loin, mais nous avons un peu trop loin, mais nous avons besoin de prétextes. Ma journée n'est pas perdue si j'ai rencontré quelqu'un.
Mais vous allez jusqu'à parler du coup de décroissance, puisque vous critiquez finalement la croissance. Mais est-ce que cette décroissance n'est-elle pas possible seulement dans un monde où l'égalité est présente ? On ne peut pas demander aux pauvres d'être plus pauvres. Et donc, vous m'aviez parlé de Maurice Allais, du prix Nobel d'économie, et ça serait intéressant que vous nous fassiez ce rapport-là.
Oui, il se trouve que j'ai été son élève il y a pas mal de temps, il y a une bonne cinquantaine d'années. Et que j'ai repris ces cours à l'occasion de ce qui s'est passé cet été. Et je vois que Maurice Allais dit quelque part qu'il ne faut surtout pas croire que spontanément, et c'est ce que M. Perlevade a rappelé tout à l'heure, surtout pas croire que spontanément les choses s'arrangent et vont vers un optimum. La croyance qu'avait Adam Smith de la fameuse main invisible, c'est une croyance, ce n'est pas un théorème, ce n'est pas une réalité. En fait, il n'y a aucune raison pour que l'accumulation des égoïsmes aboutisse à un optimum. Cet optimum, d'ailleurs, comment pourrait-on en juger ? Ce qui compte, c'est que chacun puisse participer à cet ensemble humain qui est capable de se dépasser lui-même. Et c'est cela qui est intéressant. Et ce qui dont ont besoin les jeunes en particulier, c'est justement un monde qui les accueille avec un sourire et non pas avec des règles trop proches de l'égoïsme. Bien sûr, peu à peu, l'égoïsme l'emporte. Nous sommes tous à la fois généreux et égoïstes, bien sûr. Mais il ne faut pas en vouloir à la nature, il ne faut en vouloir qu'à nous-mêmes. Si bien que moi, je ne m'intéresse pas tellement à ce qui se passe dans l'économie. Je me dis que les économistes ne sont pas très sérieux, puisqu'il suffit de lire le journal d'hier et celui d'aujourd'hui pour penser qu'ils ne sont pas capables de voir des choses énormes qui se passent sous leurs yeux. Ça paraît pareil, inattendu. Non, je ferai plus confiance maintenant aux économistes, surtout à ceux qui dirigent les entreprises de contrôle, comme on vient de voir. Par conséquent, je ne vois pas comment on peut se passionner pour un taux de croissance. Il faut se passionner pour une certaine capacité à vivre avec les autres. Et pour cela, bien sûr, il faut un certain niveau économique. Il se trouve qu'actuellement, il y a ceux qui sont très en bas et ceux qui sont très en haut. Et du coup, ça ne peut pas durer, évidemment. Or, pour que tout le monde soit au niveau des plus riches, de nous autres, je crois qu'il faudrait les ressources de 2 ou 3 planètes, d'après certains calculs très imprécis. Par conséquent, il n'est pas possible de viser une humanité qui, dans 15 ans, serait faite avec des gens ayant notre niveau de vie. Si on veut qu'il y ait un petit peu d'égalité ou un peu moins d'inégalité, il faut admettre que le niveau de vie des plus riches, de nous, les gavés, sera un peu réduit. Et il faut s'arranger pour que cette réduction nous donne du bonheur. Et c'est parfaitement possible. Car de quoi est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin d'éducation, j'ai besoin de soins quand je suis malade, j'ai besoin de toutes ces choses qui ne coûtent rien à la Terre. Par conséquent, on peut les multiplier. Par contre, augmenter la consommation de pétrole et en faire un indice qui va monter, ça n'a guère d'intérêt. Si bien qu'on peut faire le projet d'une humanité moins gavée du côté des gavés que nous sommes, un petit peu mieux nourrie du côté des pauvres, et puis surtout ayant comme objectif de développer ce bonheur de la rencontre.
Alors, à la fin de cette première partie, ce qu'on vous propose, c'est 1 ou 2 questions de la salle. On aura de toute façon un retour sur des questions de salle en fin de deuxième partie, puis en fin de réunion, si on a le temps. Avant d'aborder donc les problèmes de régulation et les solutions, sur ce qui a été dit par nos deux intervenants, des questions dans la salle.
Bonsoir. À propos de l'économie et de la façon dont la science, entre guillemets, économique, étudie les phénomènes qui sont son objet. J'ai un souvenir, j'ai fait mes études à HEC, et à une époque, j'avais un professeur d'économie à qui j'avais posé la question suivante. Je lui ai dit, voilà, il y a un bar, et dans ce bar, il y a 2 personnes qui sont accoudées au bar, et chacune d'elles boit une bière. Et puis après un moment, comme il fait très chaud, chacune d'elles boit une autre bière. Si j'analyse économiquement la façon dont les choses se passent, on a la destruction de 4 bières, le paiement de 4 bières par 2 personnes. Bon. Maintenant, reprenons la même scène. Les 2 personnes parlent entre elles. Elles sont en train de sympathiser, comme dit M. Jacquard, elles sont en train de se rencontrer. Puis il y en a un qui dit à l'autre, allez, je te paye ta bière. Et puis ils boivent leur bière, et puis ils continuent à discuter. Et puis comme il fait très chaud, l'autre, celui qui vient de se faire offrir une bière, dit à son interlocuteur, « Allez, c'est à moi, je t'en paye une. » Du point de vue économique, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire la destruction de 4 bières, le paiement de 4 bières par 2 personnes. Du point de vue humain, ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que la science économique est capable aujourd'hui, avec différents instruments, de prendre en compte la dimension humaine que j'essaie d'évoquer comme ça ?
Jean-Pierre Levade ?
Je vous ai donné la réponse tout à l'heure, c'est-à-dire si je suis fabricant de bière et que je m'aperçois que la convivialité dans les cafés, dans les bars, augmente la consommation, je vais favoriser cette convivialité. Donc en ce sens, la convivialité devient un effet externe, réinternalisé dans l'activité économique. Mais si je suis fabricant de bière et que la convivialité est neutre, suivant votre hypothèse, sur la consommation de bière, pourquoi voulez-vous que je m'y intéresse ? Donc, si c'est neutre sur mes productions, c'est un phénomène qui m'est extérieur, donc qui ne me concerne pas.
Je ne sais pas si la question ne reçoit pas la réponse dans une des premières phrases qu'a prononcée Sylvain Canet quand il a dit, et je pense que c'était une provocation, volontaire ou involontaire, je ne sais pas, l'entreprise a pour objet de faire de l'argent. Je crois qu'à partir du moment où on dit cela, au lieu de dire l'entreprise a pour effet de produire des biens qui doivent répondre aux besoins de la société, on a marqué le changement ou le dévoiement du capitalisme contemporain et qui explique que pas mal des problèmes que nous rencontrons. Est-ce que c'est faux ?
C'est, on arrive déjà presque à la deuxième partie à partir de cette question-là. C'est à mes yeux inexact. C'est-à-dire que l'objet de l'économie, je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, c'est vraiment la lutte contre la rareté. C'est l'amélioration des conditions de vie, des conditions d'existence de la collectivité à laquelle on s'intéresse, qui est le plus souvent pour l'instant une collectivité nationale. J'ai de ce point de vue-là un désaccord profond sur avec Albert Jacquard sur les problèmes de croissance. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc l'économie, c'est l'amélioration des conditions de vie et d'existence. Donc c'est d'abord l'objectif principal. Vous avez complètement raison. L'objectif principal, c'est de fabriquer des biens et des services qui correspondent à une demande de la collectivité. Simplement, depuis la tribu primitive, depuis l'économie néolithique, qui est une économie à la fois collective et de troc, on a changé de modèle. On est entré dans une économie d'échange, et l'économie d'échange nécessite de la monnaie. La monnaie est le lien social fondamental en matière économique. L'échange nécessite de la monnaie. Et donc la monnaie devient une grandeur économique qui facilite l'atteinte par l'ensemble du système productif de ses objectifs de production de biens et de services, etc. Et à ce moment-là, là arrive une distinction fondamentale qui est que, et là Adam Smith a raison, donc on a eu, faut pas le condamner totalement. On n'a pas trouvé de forme depuis la tribu néolithique et depuis l'économie de troc d'il y a 4000 ou 5000 ans avant Jésus-Christ, on n'a pas trouvé d'organisation économique efficace autre que l'économie de marché. C'est-à-dire une économie d'échange où la liberté individuelle d'entreprendre, de produire, d'accumuler est respectée. Et dès lors que vous parlez de liberté d'accumuler, vous introduisez le profit. Et dès que vous introduisez le profit, vous introduisez à nouveau ce que j'ai appelé tout à l'heure le facteur cupidité, à pas de gain, cupidité. Le désir d'enrichissement ou le désir de prospérité sont les moteurs principaux de la machine économique, tant qu'ils restent mesurés, tout va à peu près bien, et c'est là que j'ai un désaccord avec Albert Jacquard. À partir du moment où ils ne sont plus mesurés, où ils ne sont plus régulés, alors là, on rentre dans une économie de caractère cupide, et elle va à la faillite. Et donc, il ne peut pas y avoir, de mon point de vue, d'autre économie qu'une économie de marché. Il n'y a plus d'économie collectiviste. Elles ont toutes disparu. Accessoirement, on y viendra peut-être tout à l'heure. L'économie collectiviste, elle implique un pouvoir dictatorial. Elle implique la disparition de la démocratie. Je ne crois pas que la tribu néolithique ait jamais été démocratique. Donc l'économie collectiviste, l'organisation collective de l'économie passe par la suppression des libertés, puisqu'elle supprime la liberté individuelle de produire, d'échanger, d'accumuler. Mais dès lors qu'on respecte ces libertés, le profit arrive, et avec le profit arrive la cupidité, et donc éventuellement le déséquilibre de l'ensemble du système, déséquilibre que j'ai effectivement essayé de décrire dans mon livre précédent que j'avais appelé « Le capitalisme total ».
Albert Jacquard.
Oui, il a été question tout à l'heure de la science économique. Est-ce que vraiment ça existe? Est-ce qu'on peut dire que l'économie est une science? Il ne me semble pas, car le concept central, c'est celui de valeur. Et toujours en revenant au cours de Maurice Allais, quand j'essaie de définir la valeur, je m'aperçois que personne ne peut. Finalement, la valeur, on ne sait pas ce que ça représente. Aucun objet n'a une valeur en soi. Par conséquent, le concept central, le mot qu'on emploie en permanence, qu'on peut représenter par des mettre dans des équations, c'est le mot valeur, et on ne sait pas ce que c'est. Pour une science, c'est difficile de se bâtir dans ces conditions. Vous êtes d'accord que vous l'avez employé, mais vous êtes contre.
Oui, mais je voudrais revenir sur une phrase de Jean Perlevat tout à l'heure, qui a dit le capitalisme, j'espère vous citer exactement, le capitalisme n'est ni moral ni immoral, il est. Alors moi je ne crois pas à cette phrase, je crois que fondamentalement il y a une immoralité du capitalisme. Alors, bien sûr, c'est banalité aujourd'hui. Quand il y a un an, on parlait de la crise des subprimes, seuls quelques spécialistes pouvaient dire de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, tout le monde en parle au café du commerce. Les hedge funds, tout le monde maintenant sait ce que c'est. Il y a 3 mois, personne ne savait de quoi il s'agissait. Et aujourd'hui, même des choses qui apparaissent tout à fait raisonnables, qui sont maniées tous les jours par des banquiers et des avocats d'affaires, qu'on appelle la technique du LBO, c'est-à-dire l'effet de levier, on achète avec du crédit, et si possible, on revend avant d'avoir payé le crédit. Et c'est toujours quand ensuite le banquier présente la note qu'à ce moment-là, on tire les conséquences de l'opération. Et c'est ce qu'on a vu dans l'opération de cavalerie bien connue aux États-Unis qui s'est révélée il y a 3 jours. Le fait qu'on ait permis aux banques et à d'autres entreprises de spéculer à découvert et de spéculer à découvert sur les matières premières et sur les matières premières alimentaires, c'est grave. Le fait qu'on ait créé une économie artificielle dite de casino. Alors, et là, pas d'accord sur l'idée qu'il n'y aurait pas de distinction entre le capitalisme financier et le capitalisme productif. Il y a une différence. C'est à partir du moment où on crée une économie artificielle qui est déconnectée de l'économie réelle, là, il y a un vrai problème. Et le problème, est-ce que c'est seulement ce dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est le problème de la régulation? Évidemment, il faut une forte régulation. Mais est-ce que ça suffit? Moi, je rejoins un peu Albert Jacquard lorsqu'il dit... Il faut un autre mode de croissance. Alors, moi, je ne me contente pas de la formule consistant à dire « on ne connaît rien de mieux que l'économie de marché ». Mais l'économie de marché, ce n'est pas forcément le capitalisme. Il existe une conception qui s'appelle l'économie sociale de marché, où un certain nombre d'éléments très importants existent. La revalorisation de la facteur travail par rapport à la valeur du capital, la redécouverte d'une vraie entreprise au sens weberien du terme, c'est-à-dire une entreprise qui est une véritable collectivité qui produit pour les biens de la collectivité entreprise, mais aussi pour la collectivité nation, et puis toute une série de notions dont on s'est moqué il y a quelques années, qui maintenant commencent à venir à la mode, comme l'achat équitable, le microcrédit, qui sont toute une série de choses qui peuvent paraître microscopiques et dérisoires, mais qui sont probablement le fondement d'une économie de demain, qui serait probablement aujourd'hui mieux que l'économie dont nous vivons ou dont nous souffrons aujourd'hui beaucoup.
Est-ce que vous m'accorderez que vos idées relèvent pour l'instant de l'utopie? Ah ben écoutez, à ce moment-là, j'aurais tendance à vous dire l'économie dite, comment vous avez dit, sociale, c'est ça?
Économie sociale de marché.
Sociale de marché. D'abord, je vois pas la différence. Elle est d'abord, c'est quand même une économie de marché.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ah, très bien. Je ne connais pas aujourd'hui, je ne connais pas de forme économique, une fois de plus, performante, qui se situe en dehors de l'économie de marché. Je pourrais prendre l'exemple des coopératives, je pourrais prendre l'exemple des mutuelles. On voit bien que les mutuelles ou les coopératives se comportent de plus en plus comme des entreprises généralement quelconques. Il se trouve que j'ai longtemps été banquier, j'ai pas fait que ça dans ma vie, est-ce que vous pouvez me dire la différence de comportement qu'il y a entre le Crédit Agricole Banque Mutuelle et la BNP Banque Privée ?
Pas depuis que le Crédit Agricole a fusionné avec le Crédit Lyonnais.
Alors prenons un autre exemple, puisque le Crédit Lyonnais a l'air d'être suspect dans cette affaire, d'avoir contaminé le Crédit Agricole. Continuons. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence entre les caisses d'épargne et la BNP ?
Non, aujourd'hui, au niveau des pertes sur les produits financiers toxiques.
Voilà, très bien. Eh bien, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Il n'y a plus de forme singulière de l'organisation économique en dehors de l'économie de marché. Une fois de plus, prenons un autre exemple. Vous dites qu'il y a des spéculateurs. Il faut... Alors, je ne sais pas si vous voulez interdire la spéculation ou pas. Je ne sais pas. Mais quand je suis une compagnie aérienne ou une compagnie maritime, je suis dans l'économie réelle, si je ne me trompe pas. J'achète du pétrole à terme. Je spécule ou pas ?
Je suis prudent dans mon budget.
Très bien. Donc ce n'est pas de la spéculation. Et la contrepartie qui est en face, c'est qui ?
La banque.
Et la banque, vous croyez qu'elle est contrepartie toute seule ? Jamais. La banque, elle exprime, elle transmet l'ordre de quelqu'un qui se met en position de l'autre côté. Et donc, que ces marchés-là soient à certains moments dominés par la spéculation, oui. Mais prenons un autre exemple. Est-ce que il y a 2 ou 3 ans, vous avez encouragé vos amis, vos enfants, votre famille à ne plus acheter de logement parce que les prix du mètre carré étaient représentatifs d'une bulle? Je ne crois pas. Tous les Français normaux ont continué à acheter, en se disant d'ailleurs qu'ils achetaient en espérant que ça allait continuer à monter derrière. Je ne connais personne qui dise « j'achète en espérant que ça va baisser ». Je ne connais pas. Or, nous étions dans une bulle immobilière. J'ai peut-être pris un mauvais exemple il y a 2 ou 3 ans, mais je prendrai un bon exemple en 1988 ou 1989. Donc ce que je veux dire, c'est que le désir d'enrichissement est en chacun de nous en tant qu'acteur économique, qui n'est pas séparable entre une dimension réelle et une dimension financière, que c'est la totalité qu'il faut réguler.
Donc vous acceptez qu'une banque puisse prêter pour acheter de l'immobilier à des gens qui sont manifestement insolvables,
non,
dans le but de récupérer, sans se rendre compte que le marché immobilier va s'effondrer, de récupérer la propriété immobilière des gens qu'on a poussés à s'endetter de manière drastique. Et je vous rappelle qu'en France, le taux de ménage surendetté ne cesse d'augmenter. Donc c'est pas un problème seulement de subprimes américains. C'est un problème aussi de crédit à la consommation, de crédit revolving, de produits financiers sur-représentés aux gens par téléphone, par une méthode de harcèlement qui fait que finalement ils cèdent. Et ils cèdent d'autant plus facilement que ce sont des ménages modestes. Ça, c'est pas de l'utopie, c'est de la réalité.
Mais absolument. Je ne le nie pas du tout. Je vous dis simplement que ça n'est pas séparable de l'ensemble du système économique et qu'il faut réguler partout où il y a besoin. Alors, si vous me permettez 2 minutes d'observation un peu plus fondamentale, parce que l'économie, ça n'est pas une science, mais il y a quand même un certain nombre de faits établis. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'échange sans monnaie. La monnaie est le lien social fondamental d'une collectivité, disons, moderne en termes économiques. De ce point de vue-là, la monnaie est un bien public fondamental. D'ailleurs, la valeur de la monnaie, on la voit depuis quelques semaines ou quelques mois, la valeur de la monnaie, finalement, elle est garantie par la signature publique, par la signature de l'État. C'est vraiment un bien public. Comment se crée la monnaie ? Pour mettre l'accent sur une contradiction fondamentale de toute économie moderne. Dès lors qu'on a arrêté d'avoir comme monnaie du bétail, de l'or, des coquillages, ou... Non, je passe. Donc, qu'est-ce que c'est que la masse monétaire ? La masse monétaire, la monnaie disponible dans une économie, c'est le total des dépôts en banque, des dépôts à vue en banque. Votre monnaie, elle est dans un dépôt dans une banque. Comment la banque crée-t-elle de la monnaie ? Parce que c'est le système bancaire, c'est en ce sens qu'il a une fonction irremplaçable et unique. C'est le système bancaire, y compris la banque centrale, bien entendu, qui crée la monnaie. Comment il la crée ? Il la crée en ouvrant des crédits. La monnaie, la masse monétaire, est égale au montant des crédits distribués à l'économie. Et donc, la prise de risque privée qui correspond à l'ouverture d'un crédit a pour contrepartie la fabrication d'un bien public fondamental. Et là, vous avez la contradiction permanente de toute économie monétaire. C'est que vous devez avoir de la prise de risque si vous voulez avoir de la croissance. Et en même temps, si vous avez une mauvaise prise de risque, trop de prise de risque, une prise de risque dévoyée, les subprimes, les crédits aux ménages qui sont incapables de les rembourser, vous mettez en cause la solidité du bien public monnaie. Les deux choses sont liées. La monnaie, c'est la contrepartie d'une prise de risque privée. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de cette contradiction parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, sauf à revenir à nouveau à l'économie de troc, de créer de la monnaie. Et donc, il faut réguler, tout réguler. Mais regardez bien, même aujourd'hui, voyez la contradiction. Le président de la République, là, je ne le critique pas. Je dis simplement, il va illustrer parfaitement, avec son tempérament, actif, la contradiction dont je parlais. Il vous dit en même temps, un, je sauve le système bancaire, et deux, mais attention, je le sauve à condition qu'il augmente son volume de crédit à l'économie. Et donc, il exprime à lui tout seul cette espèce de recherche complexe d'équilibre entre les ouvertures de crédit et la solidité de la monnaie. Et toutes les faillites bancaires de l'histoire la plus ancienne sont des faillites par excès de distribution de crédit. C'est-à-dire excès, alors, on peut varier les qualificatifs, excès d'optimisme, excès de cupidité, excès de voilà.
Jean-Pierre Levade, on est donc là. On rentre dans la deuxième partie.
Oui.
Hein, et ce qui opposait l'échange précédent, c'était vraiment le rapport entre l'économie et la démocratie. Vous dites, vous, l'argent, finalement, devient le langage universel.
D'une collectivité.
Je me suis appuyé sur une réflexion de Jacques Sapir, qui a écrit un livre sur les économistes contre la démocratie, où, en fait, en gros, il pose quelques remarques sur le poids de la pensée libérale. Il va même jusqu'à parler d'un libéral-stalinisme. On s'en souvient, c'est par exemple l'exemple de Thatcher qui disait en gros « there is no alternative ». Et puis il démonte la libéralisation financière, le libre-échange. Il moque même les théories sur les cycles, comme quoi il n'y a effectivement pas de cycle. Et on en arrive à toute cette discussion sur les régulations. Alors, je comprends bien, le mot « régulation » vient de l'anglais et en anglais, on est plus proche de l'idée de réglementation. La question qu'on aimerait vous poser à tous les deux, c'est, un, est-ce que l'argent, bien sûr, peut continuer d'être le langage universel ? Mais avant ça, en termes d'économie, cette régulation, cette réglementation, comment on va pouvoir avoir un contrôle démocratique, en gros, plutôt que, comment vous allez faire, plutôt que de refonder le capitalisme, comment on peut repenser le capitalisme avec ses règles ? Avec quelles règles ?
D'abord, si vous permettez, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je n'ai jamais dit l'argent est le langage universel. Je dis l'argent est le langage universel dans le domaine économique. Mais Dieu merci, l'activité humaine ne se résume pas à cette seule dimension. Je ne peux pas comparer, là on rentre dans des systèmes de valeurs pour montrer que la science n'est nulle part, si je puis dire, d'une certaine façon. Je ne peux pas comparer le plaisir que je tire d'une consommation que je vais payer avec mon argent ou de la contemplation d'un tableau qui ne me coûtera rien, mais qui va... Donc nous sommes dans des ordres différents. Donc l'argent, n'exagérons pas non plus son rôle. Simplement, dans le domaine économique, dans le domaine de la lutte contre la rareté, dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie, l'argent, oui, est le langage universel. Deuxièmement, comment réguler ? Je crois que je me suis exprimé assez simplement pour sauter tout de suite à la conclusion. Réguler, c'est éviter les prises de risques excessives. La prise de risque de l'économie réelle est normale si l'investissement a un espoir de rendement, disons, raisonnable, et si ça n'est pas constitutif de plans sur la comète. Donc il faut réguler la prise de risque. Il faut que la prise de risque soit raisonnable, qu'elle ne soit pas excessive, qu'elle ne corresponde pas à une pure spéculation sur l'évolution des prix des actifs, ou qu'elle ne corresponde pas à l'expression d'une pure cupidité, ou encore moins à l'expression d'une escroquerie. Cela va de soi. Et donc, de mon point de vue, on en est encore fort loin, tout point d'accumulation de risque au sens économique du terme, tout point d'accumulation de risque économique ou financier qui peuvent, par leur concrétisation, mettre en danger le bien public qu'est la monnaie, tout point d'accumulation doit être régulé. Doit être régulé, ça veut dire que les risques doivent être transparents, doivent être connus, doivent être publics, doivent être évaluables et évalués, et doivent être soumis à une sorte de... Les institutions en question, les lieux de fabrication de risques doivent être soumis à une espèce d'agrément d'une autorité de régulation sur leur mode de fonctionnement. On en est très loin parce que le mythe anglo-saxon de l'autorégulation des marchés est encore très fermement installé. Mais dans cette régulation, il va de soi que, de mon point de vue, il n'y a pas une frontière très nette entre l'économie réelle et l'économie financière. Je vais vous donner un ou deux exemples. Les fabricants d'énergie aujourd'hui, il se trouve qu'en matière d'énergie, il y a aussi des marchés à terme. Il y a des marchés de dérivés, il y a des marchés de futur. On peut acheter de l'électricité à livraison 2 ans d'ici. Les producteurs d'électricité, là on est dans l'économie réelle, sont des acteurs de ces marchés dits dérivés. Ils ont eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, EDF, Suez, Gaz de France, etc., même chose chez les étrangers, ils ont l'équivalent de salle de marché. Ils achètent, ils vendent à terme de l'énergie. Et bien, je dis, ces structures-là doivent être régulées. Parce que si elles ne le sont pas, un jour, on aura une explosion.
Régulées par des experts ou régulées contrôle par citoyen.
Des autorités. Attendez, le contrôle citoyen, moi, la démocratie directe, j'adore. Ou, comme dirait madame je ne sais qui, la démocratie participative, c'est parfait, sauf que ça marche pas. Donc, nous sommes sur des sujets qui sont des sujets très techniques, très compliqués, et donc très sophistiqués, au fur et à mesure que l'économie se développe, elle se sophistique de plus en plus, et donc on a besoin d'autorités spécialisées. Ces autorités spécialisées, elles sont nécessairement des sens publics. Elles doivent être créées par le pouvoir politique. Elles doivent bénéficier d'une délégation du pouvoir politique. Mais elles sont, à mes yeux, nécessairement indépendantes. Je vais prendre un exemple qui me paraît un exemple parfait, qui est la Banque centrale européenne. Pourquoi on a créé des banques centrales historiquement ? C'est pour éviter la tentation très forte des pouvoirs politiques. Comme quoi, vous voyez, hein, le désir d'enrichissement, la cupidité, etc., c'est vrai à tous les niveaux de l'humanité, en commençant par les sommets du pouvoir. C'est pas une allusion actuelle, hein. C'est historique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tous les pouvoirs politiques de l'histoire de l'humanité, dès lors que la monnaie est apparue, ils ont quand même trouvé très commode d'en fabriquer. Vous savez comment ça... Il y avait une expression formidable. Quand la monnaie était une monnaie or, au Moyen-Âge, qu'il n'y avait plus suffisamment d'argent dans les caisses de l'État, l'État décidait d'évaluer sa monnaie pour multiplier par deux sa valeur théorique, si je puis dire, multiplier par deux le volume qui était à sa disposition. Il appelait ça, de manière délicieuse, on appelait ça le rehaussement des monnaies, alors qu'en fait, on les dévaluait. Donc, toutes les grandes faillites bancaires proviennent du fait que le pouvoir politique ou un pouvoir local a favorisé la création de monnaie. La monnaie permet de tout acheter, donc plus j'ai de monnaie, plus je suis content. Donc, si j'ai la capacité de fabriquer de la monnaie, j'en fabrique à tour de bras. Donc, on a dit, l'expérience historique a conduit à fabriquer des banques centrales qui étaient chargées de réguler la création monétaire. Ces banques centrales, tant qu'elles étaient dépendantes des États, ben, on s'est aperçu qu'elles ne régulaient pas grand-chose. Et donc, on a fini par fabriquer des banques centrales indépendantes. Eh bien, pour éviter que la création monétaire soit excessive. On voit bien, d'ailleurs, à quel point elles sont critiquées. En tout cas, elles étaient critiquées jusqu'à une date récente, la BCE. Depuis 3 mois, ça a un peu changé, hein. Mais donc, la banque centrale indépendante, elle est là pour éviter que la création monétaire devienne trop importante, c'est-à-dire que la valeur de la monnaie disparaisse, que le lien social fondamental de l'économie disparaisse. Donc de la même manière, et pour les mêmes raisons, parce que les pouvoirs politiques auront toujours tendance à favoriser la prise de risque, comme on le voit aujourd'hui dans les déclarations, de toutes parts, comme les pouvoirs politiques auront toujours tendance à favoriser, pour des raisons politiques, pour des raisons électorales, la multiplication des prises de risque, je pense qu'il faut que les autorités de régulation soient aussi des autorités investies par la puissance publique, mais indépendantes. Donc je suis pour l'application des principes de Montesquieu à la sphère économique, séparation des pouvoirs.
Albert Jacquard, on a parlé d'humanisme, et c'est vrai que on parle d'économie et d'humanisme, et on est en plein dans les règles. Et c'est vrai qu'on peut l'être humain aurait besoin d'entraves et aurait besoin de règles, effectivement, pour s'approcher et devenir meilleur, s'approcher du monde, enfin, pour reprendre une expression. Alors, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un système planétaire qui, pour vous, qui rapprocherait les données humanistes et l'économie ?
Je ne sais pas si ça les rapprochera, mais de toute façon, il y a une nécessité, c'est de tenir compte des conditions limites, comme on dit en physique, c'est-à-dire de tenir compte du fait que la Terre, comme je le disais tout à l'heure, est petite. Nous en touchons les bords. Et par conséquent, il nous faut prévoir un monde de 8 ou 9 milliards d'humains qui puissent vivre en commun en se répartissant les richesses créées ou les richesses trouvées. Alors, les richesses trouvées, c'est par exemple ce que la nature nous donne. Il se trouve que la nature nous donne du pétrole ou du gaz, par exemple. Quelle est l'idée naturelle ? Si on se pose la question, mais à qui est-ce qu'on va donner cette richesse ? Il se trouve que sans avoir à répondre, on a fait comme si on répondait, et qu'actuellement, il y a quelques personnages qui font fortune avec le pétrole, et tant pis pour les autres. C'est une idée absurde de prétendre qu'une richesse donnée par la nature est donnée à tel ou tel et pas à tous. Il suffit de poser la question, puisque le pétrole ou le gaz ou n'importe quoi est donné par la nature, à qui est-ce que ça appartient ? Quel est le propriétaire naturel ? La réponse est tout le monde. Et quand on dit tous, c'est pas seulement les 6 milliards d'humains d'aujourd'hui, c'est les milliards et les milliards d'humains qui vont nous succéder. Car chaque fois que l'on brûle un baril de pétrole, on le vole à nos petits-enfants. Bien évidemment, ce n'est pas de la démagogie de dire ça. C'est tout simplement le constat tout naturel que quand il y a une richesse qui apparaît, on se la partage. On se la partage entre qui et qui ? Ceux qui habitent à côté, ceux qui ont spéculé pour obtenir des droits, ou tout simplement entre tout le monde. La vraie démocratie, elle commencera là. C'est-à-dire qu'on s'apercevra que tout être humain actuel a une part du pétrole. Il n'a pas à la payer. Elle appartient à tout le monde. Et par conséquent, on aboutit très rapidement à une vision d'un monde humain où les richesses sont réparties à égalité, à peu près, entre tous les ayants droit. Pourquoi pas ? Et on s'aperçoit à ce moment-là, ça a été évoqué un peu tout à l'heure, que parmi les richesses qui sont données par la nature, il y a ce que je viens d'évoquer, mais il y a aussi les richesses que nous avons construites nous-mêmes. Or, ces richesses, actuellement, il y en a deux catégories. Il y a celles qui ont été considérées comme des chefs-d'œuvre humains, les pyramides, les cathédrales, etc. Et cela, depuis une soixantaine d'années, on admet que ça appartient à tous les hommes. Bravo. Dans l'élan de l'après-guerre, on a pris la décision à l'UNESCO de dire que tous les chefs-d'œuvre humains appartenaient à tous les hommes. La Joconde, elle est à Paris, mais elle n'appartient pas aux Français. Elle appartient à tous les hommes, etc. Par conséquent, il y a déjà tout un pan des activités humaines qui sont réparties en fonction du droit accordé à tous d'en profiter. Puis il y a une deuxième catégorie, c'est la catégorie qui, au contraire, est entrée dans le domaine de l'argent, de la finance, de la valeur, etc. Et là, on n'a plus qu'à se battre les uns contre les autres. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une grande partie des activités, des richesses produites par les êtres humains sont réparties automatiquement entre tous ? Richesses, par exemple, que sont la guérison des gens malades. Quand on est malade et qu'on est guéri, on a, au passage, peut-être qu'il n'y a pas de monnaie, peut-être qu'il n'y a pas de valeur, mais il y a une richesse qui a été créée. Et c'est ça qui est important. Quand on est malade, on ne pense pas d'abord à ce que ça va coûter. On pense surtout aux bénéfices que l'on aura à rencontrer un médecin. Lorsqu'on a envie de comprendre une théorie quelconque, on va avoir des professeurs pour vous l'enseigner. Toutes ces richesses-là, qui ne sont pas monétisées, et qui sont infiniment plus importantes que celles qui transitent par les banques, eh bien, ces richesses-là, on devrait pouvoir les distribuer. Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, de mettre au programme du XXIe siècle la planétarisation du système sanitaire ? Le système sanitaire, c'est la façon dont 8 milliards, 6 milliards d'hommes se battent contre les microbes, les virus, etc. Il se trouve que c'est un domaine où on a l'expérience d'une victoire merveilleuse. Il y a 30 ans, on a déclaré la guerre au virus de la variole et on a gagné la guerre. Ça, c'est un vrai « on a gagné ». Eh bien, ce qu'on a fait pour la variole, il faudrait le faire pour toutes les maladies. Car au fond, tout homme malade est un homme sans frontières. Tout médecin est un médecin sans frontières. Quand un médecin rencontre un malade, il le soigne. Il ne lui demande pas sa carte de sécu ou même pas sa carte d'identité. Par conséquent, imaginez que l'on commence à ne plus parler de valeur, car ça n'est pas valorisable, qu'on ne parle plus de valeur quand il s'agit des véritables richesses, qui sont la santé, qui sont l'éducation, qui sont la justice, etc. Après, on laissera ceux qui s'occupent des finances s'arranger entre eux, je dirais. Ce n'est pas très important. L'important, c'est qu'il y ait suffisamment de médecins, d'infirmières, suffisamment d'enseignants pour satisfaire les besoins qu'ils sont là, capables de satisfaire. Et le reste, au fond, paraîtra plutôt accessoire.
Donc, vous êtes en train de nous dire, on ne va pas pouvoir tout faire en même temps, mais le système sanitaire pourrait être régulé, je reprends le terme de l'économiste, et on pourrait imaginer un système planétaire en ce qui concerne le système sanitaire. Mais comment ça pourrait fonctionner? J'essaye de faire le rapport entre vous deux sur le système économique de ce système sanitaire.
Ça serait une caisse commune. Tous les États du monde cotiseraient pour avoir un système sanitaire qui fonctionne, ou un système éducatif, pourquoi pas. Ça s'est mis en commun. On ne va pas être guéri par un médecin qui sera français ou patagon, on sera guéri par un médecin tout court. Et finalement, cette façon de résoudre les problèmes par petits bouts, je crois, n'est pas bonne. C'était déjà un merveilleux effort, il y a 60 ans, de créer la sécurité sociale. C'est formidable d'avoir fait ça. Heureusement, on a profité des désordres de la guerre pour créer cela. Tant mieux. Mais nationaliser, ce n'est pas suffisant. C'est planétariser qu'il faut faire. Puisque l'ennemi commun est au niveau planétaire, les virus ne connaissent pas les frontières. Eh bien, il ne faut pas leur apprendre qu'il y en a. Il faut les lutter contre eux partout.
Je trouve que c'est une merveilleuse idée, celle de l'unité mondiale de l'humanité, pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, mais en même temps, ça nie l'évolution historique du monde depuis l'origine des temps.
Quelle origine ?
C'est-à-dire que les collectivités humaines se sont toujours organisées d'abord autour de la tribu et puis ensuite autour des États. Les États sont des structures qui ont une existence aujourd'hui millénaire. Moi, personnellement, l'idée que les États du monde entier mettent tout en commun, je veux bien qu'on la propose, mais compte tenu du fait que le niveau moyen des pays développés doit être 10 fois le niveau moyen du reste de l'humanité, ce qui est certainement très regrettable, mais qui est, je doute que vous obteniez un assentiment des populations concernées, or on est en régime de démocratie. Je doute que vous obteniez un assentiment des populations concernées pour voir diminuer massivement leur niveau, ce qu'elles estiment être, sûrement à tort, leur niveau de vie. Disons-le de manière plus concrète, si vous voulez un système de santé planétaire, il va falloir mettre des hôpitaux dans des zones entières du monde où aujourd'hui il n'y en a pas. Qui va payer ? Nous, les États-Unis, l'Europe, le Japon, point. Vous allez dire aux populations européennes, américaines et japonaises, vous êtes responsable du financement de la totalité du système de santé mondial ?
Bien sûr.
Mais je doute, j'ai beaucoup de respect pour votre pensée, je doute que vous soyez élu avec une politique de ce type. Or, on est en régime de démocratie. Et donc, si vous n'êtes pas élu, vous n'avez aucune chance d'arriver à vos fins.
Donc, il ne faut rien faire.
Ben, ce n'est pas ce que j'ai dit.
Donc, il ne faut rien faire. Puisqu'on n'est pas sûr. Je vais vous donner un siècle à peu près pour mettre en place le système sanitaire planétarisé. D'ici 100 ans, on doit pouvoir faire ça. Mettez en commun tous les moyens des pharmacies, des laboratoires de pharmacie, en commun les médecins, vous savez, on peut faire des progrès fabuleux. Il n'y a pas besoin de médecins aussi calés que les nôtres, mais on a vu même en Chine où la natalité, la fécondité a été jugulée par des moyens purement non démocratiques, d'accord.
Eh oui.
Mais on peut imaginer une démocratie de la santé, puisque ça marche pour les œuvres d'art. Pourquoi ça ne marcherait pas pour cette œuvre d'art qu'un enfant qui est en train de mourir ?
Mais je conteste votre affirmation sur les œuvres d'art. Je vous garantis que le ministère de la Culture français, il considère pas du tout que la Joconde n'appartienne pas à l'État français.
Oh. Ben, si l'État français veut la détruire, vous allez voir qu'il y aura... Tout le monde lui dira que faites-vous là.
De la même manière que, si je ne me trompe pas, il y a une dispute ancienne et permanente entre l'État grec et l'État britannique sur les fresques du, les frises du Parthénon. Donc il y a bien une notion de propriété nationale, y compris sur les œuvres d'art.
Mais Jean-Pierre Levade, finalement, dans l'idée de mettre en perspective ça, si on regarde le protocole de Kyoto, finalement, c'est un marché régulé, c'est une manière de réguler dans un certain domaine développement durable les marchés. Et donc, l'idée du système sanitaire, c'est peut-être une deuxième autre possibilité.
Sur ce sujet-là, je suis d'accord avec Albert Jacquard. C'est-à-dire qu'il est très clair que dans les effets externes négatifs que nous avons dans le développement de l'économie réelle, hein, je dis à mon interlocuteur de tout à l'heure, là-bas, tout en haut, les effets externes de l'économie réelle, le réchauffement climatique, c'est pas la finance qui le fabrique, c'est l'économie réelle. Hein. Donc dans la lutte contre les effets externes de l'économie réelle, et notamment le réchauffement climatique qui met en danger la totalité de l'espèce, nous avons besoin d'une régulation qui est nécessairement une régulation internationale, parce que par définition, le CO2, peu importe où il est fabriqué, il s'étend partout. Donc nous avons besoin d'une régulation internationale et nous avons besoin donc d'une instance, d'une institution de régulation internationale, elle-même indépendante, qui... Il n'y a pas d'autre solution. Je suis d'accord là-dessus. Mais simplement... On voit bien la nécessité d'y parvenir. Pour l'instant, on en est encore très très loin, alors que la nécessité est une nécessité de survie pour l'espèce. Il y a une organisation des Nations Unies pour la santé, si je ne me trompe pas, qui existe, elle. Je ne crois pas, c'est ça la différence, vous allez me trouver à mon tour, c'est moi qui deviens très égoïste, hein, mais pour compte commun, si je puis dire. Je ne crois pas que la nécessité de la planétarisation du système de santé soit ressentie aujourd'hui par les opinions publiques et accessoirement par la communauté scientifique avec le même degré d'urgence que la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Donc je dis, le développement humain, le développement des institutions humaines, d'abord, ça n'a jamais été un développement très harmonieux. Il y a eu des hauts et des bas. L'histoire est parfois tragique. Mais en tout cas, les réalisations de l'humanité en termes de développement correspondent toujours à des nécessités absolues. Je ne crois pas à la régulation spontanée, si je puis dire. Je ne crois pas à la génération spontanée. Je ne crois pas à la régulation spontanée. La régulation arrive quand le danger... est pressant. Nous sommes, en matière de réchauffement climatique, face à un danger pressant pour la totalité de l'espèce. Donc j'espère qu'on progressera. Mais je ne crois pas avoir le cœur complètement sec. Si vous me demandez aujourd'hui de choisir entre les deux, je dis l'urgence, c'est le réchauffement climatique. Avant la planétarisation des œuvres d'art et, je m'en excuse, avant la planétarisation du système de santé ou du système de sécurité sociale.
Mais juste avant de passer la parole à la salle sur cette deuxième partie, juste une petite question. Malgré tout, tout à l'heure, vous étiez plutôt sur des agences de régulation contrôlées par les États. Mais est-ce que finalement, la pression des peuples, la pression des citoyens n'a pas joué justement dans le cadre du protocole de Kyoto et que quand on voit Obama finalement qui va sûrement aller vers une signature du protocole de Kyoto, est-ce que c'est pas là aussi la pression des citoyens et des peuples qui va permettre d'aller vers cette régulation mondiale et voilà, c'est une question.
Bien sûr, mais en amont, bien sûr. Si se passe quelque chose, ça sera nécessairement les opinions publiques qui l'obtiendront. Mais en amont, la vraie innovation en matière de réchauffement climatique, c'est la communauté scientifique. Hein. C'est la révélation par la communauté scientifique que la survie de l'espèce était en jeu. Il n'y aurait pas eu depuis des années et des années les rapports du GIEC, il ne se serait rien passé. Les scientifiques, dans ce domaine, ont joué, les sachants, si je puis dire, hein, dans ce domaine, ont joué un rôle absolument clé. Et ils vont, j'espère, continuer. Je ne sens pas la même pression de la communauté scientifique sur d'autres sujets, certes extrêmement importants, mais sur lesquels les divisions nationales traversent la communauté scientifique elle-même. Si vous parlez d'agriculture, les pays développés et les pays en voie de développement ne sont pas du même bord de la table. Si vous parlez d'accès à la santé, malheureusement, les intérêts en présence sont conflictuels. Si vous parlez d'accès aux sources d'énergie, même chose. Sur le réchauffement climatique, nous avons, comme le danger est mondial, comme le danger est planétaire, nous avons une chance d'arriver, une chance. Je suis d'un optimisme mesuré. Nous avons une chance d'arriver à une solution planétaire. Mais ce n'est pas généralisable.
La parole à ça. Une question à M. Pirlevade à propos de régulation. Vous avez évoqué tout à l'heure le danger que représentent des prises de risques inconsidérées dans le domaine de l'entreprise. Je vois, moi, deux risques qui sont également, qui me semblent à moi extrêmement importants, et qui sont d'une part des objectifs de rentabilité que moi j'appelle excessifs, enfin en tout cas qui sont croissants, et deuxièmement une répartition très déséquilibrée des gains de productivité ou de valeur entre le capital et le travail, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Est-ce que vous partagez l'idée qu'il y a là des risques importants? Est-ce régulable et comment? Merci.
Excellente question. Je vais commencer par le deuxième point, c'est-à-dire la répartition de la valeur ajoutée produite par l'activité productrice entre les salariés et les entreprises. Quand les gens veulent faire de la politique, ils disent entre le travail, qui est une valeur positive, vous voyez, j'utilise le mot valeur sans savoir exactement ce qu'il veut dire, mais le travail est une valeur positive, donc ils parlent de la répartition entre le travail et le capital, parce que le capital, lui, c'est une valeur plutôt négative. Alors, sur ce sujet-là, qui fait partie des sujets que je traite dans le dernier livre et qui font partie de l'erreur historique de Nicolas Sarkozy, il est vrai que nous assistons depuis 15 ans à un déplacement de la valeur ajoutée au profit des entreprises et au détriment des salariés dans tous les pays du monde développé. Tous les pays du monde développé, avec une exception. L'exception, c'est la France. Donc sur ce sujet, les thèses qui sont propagées en France par la gauche, les syndicats, Nicolas Sarkozy, un certain nombre de ses ministres, sont des thèses fausses. Il suffit d'aller voir les chiffres les plus officiels, ceux de l'INSEE. Le partage de la valeur ajoutée entre salariés et entreprises en France est parfaitement stable depuis un demi-siècle. C'est-à-dire le chiffre de partage qu'il y a aujourd'hui, 30% en marge brute pour les entreprises, 30% de la valeur ajoutée aujourd'hui, c'est le même qu'au milieu des années 50. Donc, nous utilisons un mouvement mondial pour fabriquer sur des chiffres faux en France, une espèce de propagande, je dirais, on facilite le travail de Besancenot, hein, pour parler vulgairement. Ce qui fait d'ailleurs, c'est aussi une autre, ça va ensemble d'ailleurs, c'est la même erreur de la part de Nicolas Sarkozy, ce qui fait que les marges des entreprises françaises, les marges brutes des entreprises françaises avec lesquelles elles investissent, sont les plus faibles de toute l'Europe. Il n'y a pas un pays en Europe où les marges des entreprises soient inférieures aux nôtres. Les marges des entreprises italiennes sont supérieures aux marges des entreprises françaises, et je pourrais décliner comme ça pays d'Europe après pays d'Europe. Les différences ne sont pas des différences infinitésimales. Nous sommes à 30%, je l'ai dit, en Europe, en France, de marge brute des entreprises par rapport à la valeur ajoutée produite. Le chiffre allemand est de 41%. Donc les marges des entreprises allemandes sont supérieures d'un tiers aux marges des entreprises françaises, chiffre 2007. La moyenne européenne est à 38%. Donc 30 à 38, ça fait encore plus de 25%. Donc on a un appareil productif français qui est beaucoup plus faible que les appareils productifs des pays concurrents, ce qui explique un certain nombre de nos difficultés et ce qui explique surtout les difficultés que nous allons avoir. Alors, pourquoi cette vérité n'est pas connue ? Pour une raison médiatique assez simple à comprendre, c'est que ce qui fait la une des journaux, ce qui occupe l'espace médiatique, ce sont les résultats des sociétés du CAC 40, qui, elles, ont des rentabilités, si je puis dire, internationales, normales. Simplement, ce qu'on oublie de dire, c'est que ces sociétés en question, elles ne sont plus françaises, à la différence de la Joconde. Ou plus exactement, elles n'ont qu'un petit morceau d'elle qui est française. Elles ne font plus que de l'ordre de 20 à 25% de leur activité sur le territoire français. Elles font les trois quarts à l'étranger. Et symétriquement, si je puis dire, les sociétés du CAC 40 ne représentent vraisemblablement que de l'ordre de 15 à 20% de l'activité productrice de la totalité du système productif français. Ça, c'est pour la deuxième réponse. Donc, si vous voyez, en France, en tout cas, contrairement à ce qui est dit, nous n'avons pas ce problème-là. De mon point de vue, on a plutôt le problème inverse, c'est-à-dire qu'on n'investit pas assez parce qu'on ne donne pas suffisamment de marge brute à nos entreprises. Le premier problème, disons, les grandes sociétés internationales, y compris les sociétés du CAC 40. Oui, le taux de rentabilité qu'on leur demande sur fonds propres est excessif, et c'était la thèse de mon livre précédent, en essayant d'expliquer d'où ça provenait, pourquoi, comment c'était fait, et pourquoi tout le système d'actionnariat mondial crée cette pression sur les présidents de sociétés cotées. Est-ce qu'il faut le réguler ? Oui. Est-ce que c'est facile à réguler ? Non. C'est très compliqué, parce que les actionnaires, les 300 millions d'actionnaires au monde qui exercent cette pression indirectement à travers des fonds de pension, des caisses de retraite, des sociétés d'assurance, c'est vous, c'est moi, c'est les citoyens moyens des pays développés, toujours les mêmes, hein, Europe, États-Unis, Japon. Ce sont les citoyens de ces pays-là, ce sont les retraités de ces pays-là ou les futurs retraités qui exercent à travers les caisses de retraite, les fonds de pension, les sociétés d'assurance, une pression très forte pour que la rentabilité de leurs économies soit aussi élevée que possible. Vous avez la version collective de la recherche de l'enrichissement, pour des motifs parfaitement légitimes. Comment réguler ? C'est pas facile. Il faut pourtant y arriver. Je vais vous donner juste un exemple qui montre que je suis pas vraiment solidaire d'un certain nombre de chefs d'entreprise, de sociétés, disons, cotées. Je pense personnellement qu'il faut supprimer les stock options. C'est un exemple, au passage. Je pense qu'il faut supprimer les stock options parce que les stock options sont un moyen de lier complètement les espoirs de fortune des présidents d'entreprises cotées à l'évolution de la bourse. Et ça me paraît pervers en tant qu'introduisant dans le fonctionnement de l'économie réelle, voyez, moi aussi, je vais utiliser cette distinction, les désirs de cupidité, d'enrichissement sans cause, de spéculation, etc., qui sont pour partie un des moteurs de la bourse. Il y a d'autres mesures de ce type. Toutes les mesures de régulation qu'on peut chercher vont être des mesures qui vont consister d'une manière ou d'une autre, et c'est très compliqué, à essayer de taxer ou de surtaxer les gains considérés comme excessifs par rapport à une norme sociale raisonnable. Comment on la définit ? Ça, c'est une autre paire de manches.
J'ai le micro déjà. J'avais demandé la parole.
Allez-y.
Ok,
allez-y,
merci. Vous avez parlé de la nécessité de mettre en place des autorités indépendantes de régulation. Si on ne dote pas ces autorités indépendantes de régulation de pouvoir de police, pour faire court, à quoi serviront-elles ? On a en France la Cour des comptes qui produit chaque année des documents merveilleux qui ne sont pas tellement suivis des faits. Donc on pourrait parler encore d'autres autorités de régulation qui sont censées réguler mais qui n'exercent aucune police, donc n'ont aucun pouvoir.
Je suis d'accord avec vous qu'il faut que les autorités de régulation aient des pouvoirs de sanction. Contrairement à ce que vous dites, il y a une autorité internationale de régulation. Je reconnais qu'en France, elle n'est pas très populaire, mais à mon avis, pour de mauvaises raisons, qui a des pouvoirs de sanction. C'est l'OMC. L'OMC a un pouvoir à la fois de conception, de négociation, et lorsque la négociation réussit, et que des engagements sont pris par les différents États concernés, elle a des pouvoirs de sanction, de non-respect de ses engagements. Je ne vois pas pourquoi une instance de régulation financière, de caractère européen dans un premier temps, n'aurait pas le pouvoir, dès lors qu'elle aurait une délégation de l'ensemble des États européens concernés, n'aurait pas le pouvoir de sanctionner des comportements d'individus ou de sociétés déviant par rapport à la norme. Je ne vois pas pourquoi monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, le dernier, Madoff. Monsieur Bernie Madoff, j'aurais préféré qu'il soit régulé par une vraie autorité internationale qui, effectivement, serait allée l'inspecter et qui, deuxièmement, aurait la capacité, elle, ensuite, en cas de dévoiement, de l'interdire de profession et éventuellement de saisir la justice américaine ou une autre justice pour sanctionner un comportement pénal. Mais bien entendu, il faut des pouvoirs de sanction. Là aussi, on voit bien la contradiction qui est que les justices nationales ont horreur de ce type d'autorité indépendante. Mais l'OMC se suffit elle-même. L'OMC sanctionne des États. Après tout, la direction de la concurrence à Bruxelles, elle sanctionne aussi des entreprises et des individus. Y compris, non, pas à Bruxelles, non, c'est pas sur, c'est les Américains qui sanctionnent, y compris sur le plan pénal. Mais les Américains, les autorités de la concurrence, l'Office of Fair Trade aux États-Unis, ils sanctionnent dans le monde entier. Hein, ils considèrent qu'il a un pouvoir universel de sanction sur les atteintes à la concurrence. Donc ça existe.
Pour continuer sur sur l'aspect réglementation, surtout sur l'aspect régulation, donc, qui est mentionné ici. Dans une économie globalisée, une finance globalisée, vous venez de nous dire qu'il y a l'OMC qui serait l'autorité de régulation.
Du commerce international.
Il me semble, vu les derniers événements, que son rôle, je dirais, de régulation était assez limité. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité d'améliorer cette efficacité-là ?
Non, mais attendez, l'OMC ne s'occupe que du commerce international. Elle a été créée pour ça, il y a eu un traité international pour la créer, elle ne s'occupe que de ça, des échanges de biens et de services au niveau international. Point.
Donc, au niveau finance,
elle n'est absolument pas responsable.
D'accord. Alors, dans une économie globalisée, mondialisée, et une finance, surtout, dans ce cas-là, globalisée, Comment pensez-vous qu'au niveau d'un État, il soit possible d'infléchir ce mouvement ?
À nouveau, on tombe sur des problèmes de volonté politique, c'est-à-dire sur un problème de même type que celui dont on a parlé tout à l'heure à propos du réchauffement climatique ou de la planétisation du système de santé. Quelles sont les urgences ? Que veulent les pouvoirs politiques ? Je dis, moi, je pense que l'économie de marché, le capitalisme, vous l'appelez comme on voudra, il continuera à nous fabriquer des crises majeures s'il n'est pas régulé. Donc il faut le réguler. Pour réguler, il faut une agence de conception. Là, je vous rejoins complètement. On ne peut pas réguler s'il n'y a pas... La matière est compliquée, donc on a besoin d'un architecte, d'une agence qui réfléchisse aux différentes composantes de la régulation et qui fasse des propositions à l'ensemble des États concernés. De la même manière que dans le domaine du commerce international, l'OMC conçoit ou essaye de concevoir des accords de libéralisation du commerce. Cette agence, ça peut être le FMI, assez naturellement, à condition qu'on lui en donne les pouvoirs, qu'il n'a pas aujourd'hui. Ça peut être la Banque des règlements internationaux, qui est probablement l'organisme le plus compétent pour ce faire, mais qui est parfaitement inconnu à la fois des pouvoirs politiques et des populations. Mais il faut une agence de conception. Banque des règlements internationaux, qui est la banque des banques centrales, si vous voulez. C'est le club des banquiers centraux qui se réunissent entre eux, la Banque des règlements internationaux, pour parler simplement. Donc, Banque des règlements internationaux ou FMI, il faut une autorité de conception. Ensuite, il faut, dans chacun des grands continents, un régulateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé de mettre en œuvre sur le territoire concerné les recommandations qui auront été acceptées par tout le monde. Donc le régulateur américain, un régulateur européen, un régulateur japonais, peut-être un jour un régulateur chinois ou asiatique. Simplement, pour vous montrer le terrain qu'il y a à parcourir, d'où toujours sur ce sujet-là aussi mon optimisme mesuré, actuellement il y a 27 pays dans l'Union européenne. Nous avons une monnaie unique, hein, je le rappelle, nous avons une monnaie unique. Nous avons 27 pays dans l'Union européenne. Vous savez combien nous avons de régulateurs financiers ? 27. Et donc, quand on veut négocier avec les États-Unis, comme je le dis sous forme de plaisanterie de temps en temps, il faut louer un charter. Donc si les pouvoirs politiques européens étaient convaincus qu'il faut réguler, il commencerait par décider d'avoir un régulateur européen. Pour l'instant, on en est encore très loin. Et donc, je me dis, les secousses que nous avons subies, apparemment, ne suffisent pas. Ou, deuxième espoir, plus constructif, peut-être que les citoyens ont commencé à se rendre compte à travers ces crises qu'on a besoin non pas de moins d'Europe, mais de plus d'Europe. Et que peut-être ils vont le dire ou le manifester aux prochaines élections européennes. La démocratie, ça sert à ça.
On va juste aborder, donner la parole à Albert Jacquard sur la notion justement de crise, puisque finalement cette conférence, elle part aussi de tout ce qu'on vit aujourd'hui, une crise. Paul Jarion parle de crise de civilisation. Est-ce qu'on est en... Est-ce que c'est une crise systémique du système capitaliste ? Bon, vous avez un avis un petit peu différent sur la notion de crise, Albert Jacquard ?
Par définition, une crise, c'est un début et une fin. On parle d'une crise de larmes, d'une crise de sciatique, etc. Alors que ce qui se passe est très probablement, il me semble, ce qu'on en génétique on appelle une mutation. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le retour. C'est définitif. C'est une bifurcation. Et ce que nous vivons, il me semble, c'est plus près d'une bifurcation, d'un changement radical de direction. Et c'est pourquoi je me rends bien compte, j'ai l'air du rêveur qui parle de choses impossibles à décrire. Et pourtant, ce qui est impossible à décrire, c'est la réalité qui s'imposera à nous dans 20 ans, dans 30 ans. Et c'est à ça qu'il faut penser. Les détails techniques sur la façon de réguler la finance, j'arrive pas à pénétrer dans le sujet. Par contre, je me dis que d'ici 20 ans, 30 ans, 5, disons pour le siècle, on peut prévoir des transformations profondes en ayant au moins, non pas la prétention de les réaliser à chaque génération, mais au moins l'essai de garder le cap, d'y aller, d'en faire une obsession. Mon système de régulation sanitaire, par exemple, ça pourrait être une obsession. Il y a ce qui va dans le bon sens et ce qui va dans le mauvais sens, mais à condition que l'on ait d'abord fixé un objectif lointain. Finalement, ceux que l'on traite d'utopistes sont ceux qui imaginent ce que pourrait être la réalité dans 50 ans ou dans un siècle. Et c'est ça qu'il faudrait penser. Et c'est vrai aussi du système éducatif. Qu'est-ce qu'on doit inculquer à nos enfants comme vision du monde, comme vision d'eux-mêmes? Actuellement, en tout cas dans notre culture, on apprend à nos enfants à lutter. À lutter contre la nature, très bien, mais contre les petits camarades, ça c'est déjà moins bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une société de la non-lutte, de la non-compétition? Ça commence. Même des gens très raisonnables dans le Grand-Duché du Luxembourg, qui n'est pas un lieu particulièrement révolutionnaire, bien même au Luxembourg, on est en train de créer un lycée où on apprendra aux enfants à être coopératifs. Il y a un slogan qui court dans cet endroit-là, c'est « Mieux vaut une réussite solidaire qu'un exploit solitaire ». L'exploit solitaire n'intéresse qu'une personne. Ça n'a pas grand intérêt. Tandis que ce que l'on fait avec solidarité, ça peut marquer, aller très loin. Si bien que j'imagine qu'on parle du système éducatif en ayant une vision à long terme, en se disant, si les enfants sont actuellement si écœurés, ils le sont, s'ils ont tellement envie à chaque occasion de prendre des bonnes ou mauvaises raisons de se promener dans les rues et de crier, c'est qu'il y a une cause derrière tout ça. Ce n'est pas simplement le plaisir de détruire. C'est le constat que le monde dans lequel on est en train de les plonger, ils n'en veulent pas. Ça ne les satisfait pas. C'est autre chose qu'ils ont envie. Par conséquent, c'est autre chose qu'on pourrait au moins leur proposer. Proposer, oui, un monde de la non-compétition, de la non-lutte. La lutte contre les éléments naturels suffit bien à nous occuper. Par conséquent, imaginons ce monde dans un siècle. Naturellement, il ne pourra progresser que si peu à peu les définitions par état, par frontière, se dissolvent un peu. Les frontières, disait Georges Bidault, sont les cicatrices de l'histoire. Les cicatrices, c'est fait pour disparaître. Donc il me semble que dès maintenant, on pourrait dire l'Europe, c'est très bien, tant mieux, on ne va pas se battre. Enfin, on s'arrête de se battre contre les Allemands, tant mieux, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller jusqu'à la planète. Arrivé à la planète, on n'ira pas plus loin. Mais au moins, le problème posé à l'humanité, c'est comment vivre tous ensemble sur une planète que nous ne quitterons pas. Voilà un problème qui est bien posé. On peut en discuter sans fin, mais au moins faire apparaître quelques objectifs lointains. Il y en a un qui est déjà écrit, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que ce texte, qui est extraordinairement révolutionnaire, qui supprime les frontières, qui dit que n'importe quel être humain a le droit de s'installer partout où il le désire, ce texte-là a été voté par tous les pays du monde il y a 60 ans. Bien, il suffirait d'essayer de lui donner un peu de réalisation.
On va conclure avec deux questions dans la salle, si vous voulez bien.
J'en avais une petite question, s'il vous plaît.
Alors,
voilà.
Le monsieur là, et après d'accord ?
Je voulais revenir sur la question de la régulation qui me paraît effectivement une question clé à partir du moment où on commence à faire du transnational, du mondial, du global, etc. On va prendre un exemple très concret que vous connaissez infiniment mieux que moi parce que je suis loin d'être un spécialiste du fonctionnement des banques. Je crois savoir, sauf erreur de ma part, que dans les années 60 ou 70, on s'est avisé que si les banques faisaient du crédit, c'était quand même pas idiot qu'elles aient au moins un petit peu de l'argent qu'elles prétendaient prêter. Et un organisme dont j'ignore exactement la structure et la composition a défini des ratios qui sont des ratios imposés aux banques, comme quoi leur quasi-fonds propres doit être égal à X% du total de leurs encours. Je ne crois pas me tromper. Bon, ça doit s'appeler le ratio Cook, sauf erreur, ou quelque chose comme ça. Il me semble également savoir qu'à mesure que les banques ont augmenté le montant de leurs crédits et donc de leurs encours, elles ont jugé que ce ratio devenait quand même un petit peu pénible, et régulièrement, d'une manière ou d'une autre, elles ont trouvé moyen de tordre ou de distordre ou de convaincre les instances de régulation pour leur faire admettre que ce ratio devait finalement devenir de plus en plus petit et de plus en plus confortable. Ce qui me semble montrer un assez bon exemple de façon dont une autorité de régulation peut se trouver non pas bafouée, mais simplement circonvenue. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur ce mécanisme ?
Non, votre reconstitution est inexacte. Les banques n'ont pas du tout obtenu une diminution des ratios, dit Cook, qui n'ont cessé depuis une vingtaine d'années de s'accroître. Mais la seule partie du système financier mondial qui a été sérieusement régulée, c'est le système bancaire au sens strict du terme. Et donc, il y a des pans entiers qui, aujourd'hui encore, sont non régulés. La distribution des crédits immobiliers aux États-Unis était une activité non régulée. Non régulée.
Fannie Mae.
Non, attendez. Les courtiers distribuant les crédits immobiliers aux États-Unis étaient non régulés. N'importe qui pouvait s'installer comme courtier distributeur de crédits immobiliers. Fannie Mae et Freddie Mac sont deux grandes institutions qui refinancent la moitié des crédits immobiliers aux États-Unis. Elles sont sous dépendance publique. C'est un excellent exemple de démonstration. Elles sont sous dépendance publique. Elles ne sont pas régulées par la Banque centrale américaine. Donc elles sont non régulées. Vous prenez les banques d'investissement américaines, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Lehman qui a fait faillite. Les banques d'investissement américaines sont non régulées du tout par la Banque centrale américaine. Les hedge funds dans le monde entier sont non régulés. Les fonds de private equity qui font du LBO, comme l'a dit un intervenant tout à l'heure, sont non régulés. Donc la partie, on dit les banquiers au sens large du terme, les banquiers sont bien entendu coupables, mais de manière plus subtile que ce que l'opinion publique croit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils étaient dans un système régulé et qu'autour d'eux, il y avait de vastes pans du système qui étaient non régulés, c'est-à-dire où l'expansion des affaires et la prise de risque étaient plus faciles, puisque non régulés, personne ne leur interdisait de faire ça, ils ont développé leur crédit et leurs activités à la partie non régulée. Et donc ils ont été pris dans le piège de la faillite de la partie non régulée.
Quand c'est régulé, ça marche. Quand c'est pas régulé, ça marche pas.
C'est ça ma thèse.
Dernière question au fond de la salle.
D'accord. Alors je voudrais revenir sur ce que disait Monsieur Jacquard tout à l'heure lorsqu'il évoquait Médecins sans frontières. MSF était pionnier justement dans un phénomène qui s'est développé maintenant, qu'on appelle plus largement l'économie solidaire, et qui représente des transferts d'argent extrêmement importants maintenant, qu'ils soient publics ou privés, qui se transforment à la fois en biens, c'est-à-dire en nourriture ou en eau, ou en services, en soins de santé ou en éducation, ou en investissement dans des infrastructures, dans des outils de travail, à destination de bénéficiaires finalement qui en bénéficient, je dirais, de manière plus largement gratuite ou relativement gratuite, et avec une contrepartie économique qui est intéressante, puisque les donateurs, eux, reçoivent en contrepartie de l'information, c'est-à-dire l'information de la garantie que cet argent est bien employé. Alors ce modèle économique, lui, il connaît une croissance à deux chiffres. Et j'ai une question assez simple. Est-ce que d'un point de vue dogmatique, on pourrait considérer que l'économie solidaire est une économie totalement iconoclaste? Ou est-ce que d'un point de vue prospective, on pourrait imaginer qu'il s'agit d'esquisses ou de débuts d'ébauche d'un modèle économique qui pourrait s'avérer être plus humaniste et rentrer à terme en concurrence avec l'économie de marché. Voilà.
Je vais vous donner une réponse qui ne va pas vous plaire. Je considère que cette partie de l'économie peut rester très dynamique tant qu'elle est petite. Et que dès qu'elle croîtra, elle va tomber sur les mêmes problèmes qu'ont les acteurs traditionnels de l'économie de marché la plus classique.
Ça existe déjà un peu, mais elle est en concurrence frontale. Par exemple, on l'a vu sur le prix des traitements antirétroviraux et des ONG qui arrivaient sur le marché du médicament proposer des traitements à des prix totalement compétitifs, se retrouver en concurrence frontale avec des grands laboratoires pharmaceutiques. Ça, c'est l'exemple le plus visible, mais évidemment, il y en a des tas. C'est peut-être justement dans cette tension-là où c'est intéressant, si on regarde vers l'avant, l'idée étant que cette croissance-là, aussi à un moment, elle n'est pas non plus faite pour s'arrêter, puisqu'elle est exponentielle, comme le disait M. Jacquard.
Le micro. Ah, une dernière personne.
Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Je voulais juste savoir, puisque vous terminez en dernière question, s'il pouvait y avoir un trait d'union entre vous deux, Monsieur Perlevade et Monsieur Jacquard. Moi, je souscris bien sûr, Monsieur Jacquard, à votre vision qui est extrêmement positive et puis qui nous fait rêver. Et puis j'ai ressenti Monsieur Perlevade plus au niveau technique des propositions de régulation, de lois dont on est submergé. Et je voulais savoir, Monsieur Perlevade, si quelque chose vous faisait rêver aussi dans la vision de Monsieur Jacquard. Voilà.
Je vais vous rassurer, bien sûr que oui. C'est-à-dire, nous avons un point commun. C'est-à-dire, nous rêvons d'une planète solidaire, bien entendu. Mais, principe de réalité, je crois, heureusement ou malheureusement, peu importe, c'est un fait. Je pense que tous les efforts que nous pouvons faire pour essayer de mieux organiser la planète, pour développer l'esprit de solidarité dans la planète, sur la planète, pour améliorer l'égalité de conditions à travers les frontières, tous ces efforts passent par des accords entre les États, qui sont des constructions historiques et qui défendent des intérêts qui sont des intérêts nationaux. Et donc, notre dimension internationaliste aux uns et aux autres consiste à dire on est pour, très généreusement, l'égalité des conditions sur la totalité de la planète, mais notre appartenance nationale fait qu'il y a un certain nombre de choses qui ne seront tout simplement pas acceptées par nos opinions publiques. Et ceci est déclinable pays par pays. Et donc la grande difficulté des politiques, si ceux d'entre eux en tout cas qui sont conscients du problème qu'ils ont à résoudre pour l'avenir de l'humanité, c'est d'arriver à travers ces intérêts nationaux divergents à trouver quand même des points d'accord. Mais c'est une vision nécessairement, comment dire, réaliste de l'état de l'humanité aujourd'hui. Pour donner un simple exemple, Albert Jacquard a parlé de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un magnifique texte. J'ajoute que l'un de ses co-auteurs est un ami personnel, hein, Stéphane Hessel. Donc, ce sont des choses dont j'ai discuté avec lui. En même temps, c'est un diplomate de carrière, donc... Le principe de réalité, il connaît. Est-ce que je peux ajouter juste d'un mot que je ne connais aucun pays au monde qui respecte aujourd'hui cette charte, notamment pour les raisons que j'ai indiquées dans son principe de liberté d'établissement.
Alors, bien sûr, ce qui paraît lunaire actuellement peut fort bien être réalisable quand ça ne dépend que de la volonté des hommes. Supprimer les tsunamis, ça ne dépend pas de nous. Par conséquent, il faudra faire avec. Mais faire que les hommes soient éduqués dès leur plus jeune âge à se battre les uns contre les autres, ça, ça ne dépend que de nous. On peut tout de même, c'est pas un rêve, c'est une possibilité, faire que les enfants apprennent à l'école la solidarité avant d'apprendre la valeur du nombre pi, qui d'ailleurs ne sert rigoureusement à rien. Par contre, leur faire comprendre que la solidarité est une richesse en elle-même, que leur vraie richesse, elle leur vient des autres, c'est une vérité. Et par conséquent, faire qu'on en tienne compte, ça devrait être possible. Que le siècle qui vient soit au moins celui où, bien sûr, il y a encore des États, mais ces États vont se fondre dans un super État. La nature est telle que la planète est toute petite et que nous sommes si nombreux dessus qu'il va bien nous falloir vivre avec l'autre et non pas contre l'autre. C'est parfaitement possible. C'est une question de décision qu'il faut prendre le plus vite possible.
Est-ce que vous aviez ces idées-là quand vous êtes rentré à Polytechnique ?
Oui, quand je suis rentré à Polytechnique, j'étais jeune, je n'avais pas réfléchi et j'étais conformiste. Et depuis, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu. Par conséquent, oui, je suis polytechnicien, mais j'étais jeune, je n'avais pas pensé. Et il me suffit maintenant de retourner, de voir le défilé du 14 juillet en me disant, mais qu'est-ce que viennent faire des polytechniciens sans ce défilé d'une armée ? C'est bien la preuve que c'est un résidu historique, l'école polytechnique, qui devrait disparaître assez tôt.
Oui, apparemment, on a suivi deux trajectoires opposées, parce que moi, quand je suis entré à l'IX, j'étais antimilitariste. Donc, mais je voudrais, juste pour montrer une minuscule anecdote, pour montrer l'importance du chemin à parcourir, pour que Albert Jacquard... voit ses vues généreuses triompher. Il se trouve que j'ai une épouse qui est fascinée par la civilisation japonaise. Donc, nous avons une relation un peu particulière avec le Japon et les Japonais. Vous savez, la prise décisive au judo, là, vous faites tomber votre adversaire et le combat est terminé, ça s'appelle Ippon. Vous gagnez par Ippon, ça veut dire terminé. Bon, le combat s'arrête aussitôt. Ippon, en japonais, ça veut dire un. Parce que les Japonais vous expliquent, quand on se bat, si on dit un, on a gagné. Si on est obligé d'aller jusqu'à deux, on a perdu. Vous voyez l'importance... l'esprit de compétition dont on parlait tout à l'heure. Alors, avant qu'on influence l'éducation nationale japonaise...
On va conclure. On vous remercie, Jean-Pierre Levade et Albert Jacquard, et vous tous d'être venus dans ce froid, et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Vincent Guibert va vous dire juste un petit mot sur la Cité des Savoirs du XXIe siècle, pour conclure.
Bonsoir, merci, sachant qu'il est toujours très difficile de prendre la parole après l'un ou l'autre d'entre vous. Bon, vous l'avez vu ce soir, il a fallu 2 heures, 2 heures et quart pour à peine gratter la surface et répondre à une question, l'économie peut-il être humaniste ? On aurait plutôt tout aussi bien traité le sujet de l'économiste peut-il être humain, qui nous aurait pris aussi 2 heures. Et c'est précisément pour pouvoir aborder, approfondir, débattre, argumenter autour de ce type de sujet aux confins de l'économie, du social, du géographique, de l'humaniste, qu'on a voulu il y a 3 ans créer ce projet de Cité des Savoirs qui à l'époque prenait non moins, Dominique tu me contredis si je dis une bêtise, que 14 000 m² sur la pointe aval de l'île Seguin. Alors à l'époque, le maire qui est maintenant dans l'opposition était pour. L'opposition, qui est toujours dans l'opposition, était pour. Le député, qui est maintenant maire, était pour. Le conseiller général, qui est maintenant maire, était pour. Le département, qui est maintenant président de ce que vous savez. Le successeur au département, qui est maintenant ministre de la relance économique. La région, et j'en passe, le ministère de l'Éducation nationale, qui était proche du député, etc., etc., était pour. Ils étaient tous tellement pour qu'ils attendaient qu'un tiers prenne l'initiative de dire « Ok, ce projet, je le finance, je le veux. » Porté par, nous estimons, 500 citoyens à peu près, hein, dans Boulogne, issus de la société civile. Certes, certains d'entre eux engagés dans les associations ou dans les partis politiques, mais principalement issus de la société civile. La question que je vous pose ce soir en conclusion, c'est ce projet, est-ce que nous le souhaitons et est-ce que vous le souhaitez toujours? Parce que la Cité des Savoirs, en tant qu'association loi 1901, existe, a vocation à continuer à exister via des débats tels que celui-ci. Et si je rebondis au vol sur le théorème que vous citiez, Monsieur Perlevat, tout à l'heure, tout système non financier, non régulé court à la faillite, j'aurais envie de transposer ça sur tout système audiovisuel, par exemple, non régulé, peut-il courir à la faillite, qui pourrait être un très beau sujet de débat pour une prochaine fois, hein, par exemple. Donc la question est de savoir si et comment on souhaite pouvoir continuer à propager, hein, cette idée d'un éclairage complet, différent, sur les grands enjeux du XXIe siècle. Donc si, comme nous, vous souhaitez que ce projet continue, je vous invite à rejoindre l'association. L'adhésion est modique. Notre trésorier, qui n'est pas là ce soir, vous le redire, mais je crois que c'est 20 euros, comme tout le monde, j'allais dire, hein, ou quelque chose comme ça. C'est de cet ordre-là. Et c'est surtout, nous avons besoin aujourd'hui qu'une force grandissante, hein, se rassemble et nous aide à convaincre les pouvoirs publics. Nous avons des tas d'idées, les entreprises, monter un club, hein, d'entreprises un petit peu sur le modèle de ce qui avait été fait à Paris pour les JO de 2012, mais en version gagnante cette fois-ci, hein, pour pouvoir faire pression sur les pouvoirs publics, mobiliser les financements, construire quelque chose et mettre ce projet à la portée des citoyens. Voilà, je vous en remercie. Si vous souhaitez adhérer, des formulaires sont à votre disposition sur la table à l'entrée. Je vous invite également à vous connecter sur notre site web
cité-d-savoir.info sans accent. Cité-d-savoir.info.
Voilà, merci, couvrez-vous bien et bon retour.